Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
C'est un appartement typiquement haussmannien. Au bout d'un long couloir desservant les chambres se trouve la cuisine, jadis l'office, avec une porte donnant sur l'escalier de service. La pièce est petite, sombre, elle date de l'époque où les domestiques restaient terrés dans l'ombre. Le reste de l'appartement, en revanche, est lumineux, agréable. Au bout d'une quinzaine d'années, à cuisiner comme un rat au fond du couloir et à trotter avec les plats tels une soubrette vers la spacieuse salle à manger, cette mère de famille décide enfin de faire des travaux pour mettre fin à son asservissement symbolique. Elle aura une cuisine à l'américaine, son rêve. Elle s'endette, s'angoisse, fait des calculs et finit par confier sa bourse et son logement à un entrepreneur recommandé par des amis. Elle se prépare au pire, se repaît d'histoires sur les travaux qui n'en finissent pas, les entrepreneurs qui s'envolent, les malfaçons irréparables, mais se lance comme au front. Il se passe alors la chose la plus étonnante qui soit, apparemment. Au bout des 5 semaines prévues, et pas un jour de plus, les travaux sont achevés, impeccables. Pas la moindre fuite, le moindre détail qui cloche, la moindre peinture qui gondole ou mur de travers. Les artisans lui donnent même des coups de main par-ci par-là pour descendre des affaires lourdes à la cave et reviennent pour améliorer un détail. La cuisine est encore plus belle que dans ses rêves petits bourgeois. La facture, quant à elle, ne dépasse pas d'un centime le devis proposé. À la suite de quoi, il ne se passe rien, tout va bien. Elle peut désormais s'angoisser sur autre chose. Tout de suite dans les pieds sur terre, 3 autres histoires de travaux, plus classiques, légères et graves. Elles sont racontées par Noémie Landreau.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ici, aucune évacuation d'eau possible. Regardez, ça remonte.
Là, vous entendez Milan, l'entrepreneur que j'ai choisi pour rénover ma maison et un architecte que j'ai fait venir en catastrophe. Tout commence il y a un peu plus d'un an quand je décide d'acheter une maison avec le père de mon fils. C'est une vieille maison, dans son jus. Et après plusieurs devis, nous décidons de confier le chantier à ce fameux Milan, que nous ont conseillé des voisins et dont le devis est beaucoup moins élevé que les autres. Nous vidons nos comptes et mettons toutes nos économies sur la table. Quand nous emménageons, les travaux ne sont pas encore finis, mais nous constatons rapidement une foule de problèmes qui vont du plus anodin au plus grave. Depuis le carrelage de la cuisine qui a été mal collé, aux fenêtres qui ont été posées à l'envers et ne ferment pas, en passant par le parquet qui gondole et la terrasse qui fuit jusque dans le plafond de notre chambre. Je ne tarde pas à l'apprendre, on appelle ça des malfaçons. Le problème, c'est que nous avons payé l'intégralité du devis. La situation s'envenime. Milan se braque, nie toute responsabilité et refuse de nous rembourser. J'ai mal à la tête, je m'engueule avec mon compagnon et je fais une fixette sur mon carrelage. Mi-juillet, coup de fil de notre avocat. Il nous apprend que Milan a liquidé sa société. Le mot est lâché. Nous nous sommes fait escroquer. Je suis complètement déprimée. Et comme les hypochondriacs qui errent sur les forums de santé, je me mets à chercher des histoires qui ressemblent à la mienne. Suis-je la seule à me réveiller la nuit avec des bouffées d'angoisse, à fondre en larmes à la simple vue de mon parquet, à scotcher mes fenêtres avec du gaffeur dès qu'il y a du vent et à dormir avec un seau près de mon lit dès qu'il pleut? Bref, les travaux tournent-ils systématiquement au cauchemar?
Là, il y a un trou, mais qui va nulle part. Et l'eau rentre là.
Bon, alors il y a 2 photos, hein, parce que sur le moment on se dit qu'il faut prendre des photos, mais là, en fait tous les gravats sont à la place où aujourd'hui il y a notre lit et machin, et on pouvait pas mettre les pieds dessus. Il fallait, mais comme dans un tremblement de terre en fait, il fallait des gens qui prennent ça pour les enlever pour qu'on puisse accéder à la pièce. En fait, là on peut pas accéder à la pièce.
Lui, c'est Nicolas. Il a 38 ans et habite à Paris.
D'être en mai 2018, je deviens l'heureux propriétaire d'un rez-de-chaussée à Paris qui est une boutique. L'agent immobilier me conseille un ami à lui qui est entrepreneur. Il m'a donc dit que lui, c'était quelqu'un d'assez sérieux et qu'il avait une main-d'œuvre 100% sud-américaine parce que c'était des gens qui travaillaient beaucoup mieux. Forcément, ça coûtait beaucoup moins d'argent, donc c'était mieux pour moi parce qu'il pouvait me faire des prix moins chers. Voilà, on commence les travaux comme ça. Ça se passe bien, l'équipe est sympa, il y a 3 personnes sur le chantier et l'entrepreneur. Je remarque rien de particulier, je remarque des petites tensions en fait. Il y a une personne, un peu plus jeune que les deux autres, qui aime bien picoler un peu le soir, ça se voit. Enfin, un mec assez festif et assez noceur, et avec une force de travail assez considérable. Un mec en plus bien bâti, donc voilà. On était fin août, je m'en rappelle. Tout avait été détruit et tout était en train d'être reconstruit. C'est-à-dire qu'en fait, les maçonneries étaient finies. Donc on avait fait 2 pièces. On en est là. L'entrepreneur, faut savoir qu'en fait, il partait en vacances avec son fils. Donc son fils l'attendait dans la voiture qui était juste à côté de la boutique. Donc bon, bref. On entend l'entrepreneur parler en fait à l'employé, si on peut appeler ça comme ça. Et on commence à sentir que ça s'échauffe, ça s'engueule quoi. Et à l'intérieur de la boutique, il y avait ma compagne, moi-même et 2 autres personnes qui, eux, travaillaient avec cet entrepreneur et donc qui étaient en fait les collègues de la personne qui était en train de s'énerver. Ça tape 2-3 fois sur le rideau quand même, ça commence à gueuler très très fort. On comprend pas tout en fait à ce moment-là, mais on comprend que le mec il se fait virer alors que le patron se casse en vacances, donc le patron il a pas le temps quoi. Et au bout d'un moment, on n'entend plus rien, plus d'entrepreneur. On voit le mec re-rentrer, très énervé, en sueur. Et là, d'un coup, en fait, très délicatement, il passe à côté de nous. Il prend un outil. Donc moi, je commence à avoir peur, parce que déjà, je suis pas très vaillant comme garçon, je pense, avec un mec qui a une armoire à glace avec un tournevis dans les mains. Et puis, il y a aussi ma compagne à côté de moi. Et puis, il y a plein d'outils là où on est, quand même. Et donc là, du coup, je parle avec les deux autres, ces deux autres collègues. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, oh, on ne sait pas. Je pense qu'il faut pas que tu restes là. Et à ce moment-là, j'entends, boum, boum, boum. Et je me dis, tiens, c'est marrant, il est en train d'essayer de fixer quelque chose. Et là, en fait, on le voit sortir de la pièce et en fait, il prend la masse. Et là, devant nous, il commence à casser toutes les cloisons qui étaient en fait construites dans l'appartement. Donc, je prends ma compagne, je lui dis, écoute, on se casse et on appelle les flics. Donc, on sort de la boutique. Pendant ce temps-là, on entend bam, 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 bam. On entend littéralement l'appart se faire démolir à coups de masse. Enfin, ça vibrait en fait. J'appelle l'entrepreneur en lui disant, tu reviens et tu vas arrêter. Arrête, c'est ton employé à la base, donc... T'es là, tu viens et tu l'arrêtes, quoi. Et là, il me fait, non. Je dis, ben, à ce moment-là, j'appelle les flics. Il m'a dit, appelle les flics, mais c'est compliqué, ils sont en black, machin et tout. Je dis, mais moi, je m'en fous, là, il est en train de détruire tout, quoi. Au bout de 10 minutes, on voit cette personne, donc la personne qui est en train de fracasser l'appart à coups de massue, sortir de l'appartement avec sa masse et toutes ses affaires, et qui s'assoit devant la boutique et qui attend les flics. Il commence à venir me parler en me disant « J'ai une famille, je viens du Venezuela, j'ai travaillé dur, je ne travaille pas pour mon plaisir, et je dois envoyer des sous en fait à ma famille, et il ne veut pas me payer toutes les heures que j'ai fait, et tu sais, tu m'as vu, j'ai fait beaucoup beaucoup d'heures, et donc je comprends pas, moi je travaille bien, et donc du coup s'il n'aime pas mon travail, moi je casse mon travail. » La personne avec sa masse, quand même, n'a pété ni la plomberie, qu'il n'avait pas faite, ni l'électricité, qu'il n'avait pas faite. Et pourtant, l'appart, ça ressemblait un peu à... Si on mentalise Beyrouth dans les années 80, c'est un peu ça, en fait. Il y avait de la maçonnerie en gravat partout, avec des... Il y avait des tas de gravats, en fait. Donc le gars a quand même pris la délicatesse dans cet acte un peu barbare de pas saccager le travail de ses copains, enfin de ses collègues. Ce qui était complètement fou, en fait. Les policiers arrivent, ils me disent « mais il est employé ce monsieur ?» Parce que ça, en fait, on voit ça souvent, c'est que les gens qui sont au black, en fait, qui font ça comme moyen de pression pour avoir leur dû, en fait. Donc du coup, l'entrepreneur dit oui, mais en fait, moi, je l'ai embauché, mais je l'embauche en tant qu'auto-entrepreneur. Moi, après, je sais pas si lui ou il a les papiers qu'il faut et tout. Donc il joue un peu sur un vide juridique qui est actuellement en France pour se disculper. Et à la fois, moi, ça m'arrangeait bien aussi. Ça serait facile de ma part d'incriminer juste l'entrepreneur, puisque j'étais très content qu'il me fasse un prix plus bas. Donc voilà. Se pose la question de savoir si moi je porte plainte ou pas. Donc l'entrepreneur commence à me faire des yeux comme quoi il va aller en prison, il va avoir une amende folle. Et nous, pour une raison peut-être un peu plus humaine, je voulais pas non plus mettre la personne qui n'avait pas été payée non plus dans l'embarras judiciaire. Donc je décide de pas porter plainte. Et donc on se retrouve là comme ça à se regarder avec ce mec qui vient de défoncer mon appart, en fait, en gros, en lui disant, ben non, je porte pas plainte. Le mec me regarde en me remerciant. Les flics lui ont dit, bon, maintenant tu t'en vas. Donc il est parti. L'entrepreneur commence un peu à redescendre. Je vois qu'il est un petit peu pressé parce qu'il a son gros 4x4 qu'il a loué pour partir avec son gamin en vacances. Donc du coup, voilà. Donc on se retrouve, en fait, avec ma copine, tout seul, dans cet appart, avec un tas de gravats. On se sentait un peu sale, en fait. Parce que finalement, on a accepté ça dès le départ. Enfin, on le savait pas, mais on l'a accepté parce que c'est du black, donc le mec n'avait aucune sécurité. Bah, t'es confronté à des trucs qui te dépassent complètement. Enfin, les trucs de migration, de précarité, de. Moi, je pensais pas que c'était aussi chacun pour sa gueule, quoi. Je me rappelle, on s'est réveillé le lendemain à 8h30 du mat, et là, je regarde mon téléphone et j'ai un texto qui doit faire, je pense, une trentaine de lignes dans un français impeccable. Cette personne-là m'écrivait, en fait, pour s'excuser de la situation et qu'il était désolé de nous mettre dans la merde. Et à la fois, il pouvait pas faire autrement, mais il y avait une espèce de... des vraies excuses, en fait. Finalement, ce mec-là qui a défoncé tout notre appart a été beaucoup plus smart dans les excuses que l'entrepreneur qui nous a mis dedans après. On a eu 2 mois de retard parce qu'il a pas réussi à rattraper son retard et que ça s'est fini, ou il a fait une fuite de chantier. On a dû faire finir l'appart par quelqu'un d'autre. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, finalement, la personne, certes, elle a défoncé mon appart, hein, je peux pas enlever ça, mais elle l'a fait avec classe, en fait, au final. C'est très bizarre, en fait, c'est quand même très bizarre. Mais bon, voilà. Voilà, on en est là.
France Culture, les pieds sur terre.
La seconde histoire dont j'entends parler est celle de Malika. Malika a 63 ans et habite aujourd'hui à Nogent-sur-Marne, mais vivait il y a quelques mois encore dans un HLM situé au 6 rue de l'Industrie à Vincennes. Tout commence quand la mairie cède l'immeuble au groupe I3F, qui décide d'entreprendre de pharaoniques travaux de surélévation sans prendre la peine de reloger les locataires. Malika habite au dernier étage. Les travaux ont lieu juste au-dessus de sa tête.
Quand ils nous ont dit qu'il y aura une extension d'étage, on va faire 2 étages en plus, il y aura l'ascenseur. On était contente. Moi, la première, parce que j'étais au 3e étage, sans ascenseur. Et comme j'étais assistante maternelle, la seule chose qui nous intéressait, tout ce que moi j'avais eu dans ma tête, c'est l'ascenseur. Mais après, c'est un rêve qui s'est pas réalisé.
Car le toit n'est pas isolé, et quand un premier orage éclate, l'eau s'infiltre partout et les dégâts commencent.
Je vous dis, si vous n'allez pas imaginer un plafond où il y a de l'eau qui coule, on dirait il y a la pluie qui coule chez vous. Vous êtes dehors, vous n'êtes pas chez vous. On dirait une tente. Et des fissures, je ne vous dis pas. Des fissures. Hein. Tout le monde qui vient et qui regarde me dit, mais c'est quoi ça? Même eux, ils viennent et disent, mais qu'est-ce qui se passe? On a tout fermé les trous et tout. Mais d'où ça vient? Dans mes placards, parce que j'avais des placards dans le couloir. Tous mes vêtements, ils étaient mouillés. Tous nos affaires qu'on a cachées en haut, des choses qu'on n'a pas besoin, tout est mouillé. Tout. Moi et mes filles, à la fin, on dormait toutes dans le salon. Même s'il n'était pas sec à 100%, mais au moins, il est grand. Parce que même les matelas, ils étaient mouillés, tout, ça ne sèche pas. Je ne comprenais rien. Une fois, ils font des trous ici. Nous, tous, les voisins, nous regardent, on dit, qu'est-ce qu'ils font? En plus, Il y avait du bruit, mais on ne voulait bien supporter ce bruit si c'était pour quelque chose. Ils s'en foutaient de nous. Par exemple, moi, il m'a dit, la fin de chantier, on va vous faire l'appartement. Supposons le chantier, il reste comme ça 5 ans. Je ne vais pas rester là 5 ans comme ça, mais c'est déprimant quand vous arrivez chez vous. Ils vont entrer, on ne sait pas si vous êtes chez vous ou vous êtes dans un ruine, je ne sais pas. Et chaque fois, il y a une chambre qui est humide, qui est noire avec l'humidité. On va dormir toutes dans une pièce. Et chaque fois, cette pièce aussi, le lendemain, on trouve qu'il y a l'eau. Des fois, on se réveille dans l'eau. Déjà, l'immeuble, il est nul, il est vieux, il peut isoler rien. Ils ont fait construire quelque chose de neuf sur quelque chose de vieux. Pour moi, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui a 100 ans, on ne peut pas le rendre jeune. Je ne suis pas l'architecte, mais c'était mal fait. Tout est mal. Il fallait reloger les gens et faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'à la fin, moi, je vous dis la vérité, j'ai dit, ça va tomber sur nos têtes, ça. Parce que c'était trop de fissures, trop. C'était vraiment, on dirait un attentat dans cet immeuble, c'est pas un chantier. J'ai perdu mon emploi d'assistante maternelle, parce que c'était impossible de travailler dans des conditions. J'ai parlé avec mes employeurs, les mamans. Tout de suite, j'ai dit, il y a des travaux, je peux pas. Comme je leur ai expliqué. Mais nous, on ne pouvait pas. Comment vous voulez garder des enfants dans ces conditions? On ne peut pas. Et ça dégrade, je vous dis, tout le temps, tous les jours. Tous les jours. Pas tout, une fois, je ne sais pas, de temps en temps. Non, tous les jours. Et la poussière, elle est... Et chaque fois, il venait chez nous, il rentre à chaque fois chez nous pour voir ça. Surtout nous, les troisièmes. Avec leurs chaussures, avec tout ça, c'est normal, parce qu'ils viennent, ils rentrent, ils mesurent. Moi, je ne peux pas travailler les marteaux, piqueurs et tout ça. Comment vous voulez faire la sieste? C'était pas la seule, il y avait une autre assistante maternelle aussi qui n'a pas travaillé jusqu'à maintenant, je crois. Elle est toujours là-bas, mais on a le même problème. Et je suis restée comme ça un an. J'ai déprimé, parce que... On ne voit pas que ça change quelque chose. Tous les jours, vous dites que ça va changer, mais tous les jours, c'est de pire en pire. Alors, le jour où m'ont proposé l'appartement, je suis partie, j'étais contente, mais là-bas, j'avais combien? 5 pièces. Ici, j'ai 2 chambres. Là, par exemple, supposons que j'ai un enfant maintenant, il va dormir où? J'ai toujours payé mon loyer jusqu'à la dernière minute. Je ne sais pas qu'il y ait... faire quelque chose... C'est pas la loi, il n'y a pas une loi qui dit ça. Oui, j'attends rien. J'ai jamais fait de procédure, jamais posé plainte. Je suis partie, j'ai laissé tout ça derrière moi. Parce que je ne veux pas, à mon âge, traîner encore ce qui me reste à vivre dans les tribunaux. Parce que je sais qu'à la fin, il n'y aura rien. Parce que bon, je n'ai pas confiance. Je suis partie, mais j'ai toujours le cœur là-bas. Je pense à mes voisines et c'est pour ça que je fais cette interview avec vous. J'ai dit si ça peut avancer quelque chose pour tout le monde là-bas. Là, c'est derrière nous maintenant, mais vraiment, c'était une expérience. Vraiment, c'était mal. On a vécu mal tout ça.
Enfin, je rencontre Gilles et Fabrice, un jeune couple qui pourrait ressembler au mien et qui habite à Falaise, près de Caen. Leur histoire commence en 2017, quand ils décident de se faire construire une maison, la maison de leurs rêves. Gilles est enceinte et le couple plein d'espoir. Mais les travaux tardent à commencer et le maître d'œuvre n'a pas l'air très net.
C'était sans arrêt des fausses excuses auprès des fournisseurs qui étaient en retard ou les engins qui tombaient en panne. Donc bon, bah, on laisse les mois passer, on relance sans arrêt. Et au fil des temps, donc le chantier commence enfin. Et nos voisins, nos familles commencent à avoir des soupçons. Est-ce que tu es sûr que les travaux sont bien faits? On a des doutes. Et ensuite, quand il a monté les murs, c'est pareil, il y a des ferrailles qui sont censées être soudées pour que la maison tienne debout. Elles ne se rejoignaient pas, en fait. Les tiges de ferraille qui sont censées se rejoindre pour que la maison reste solide et bien droite, debout, ça ne se rejoignait pas du tout. Et la maison était très large et il n'y avait pas de mur porteur au milieu, ni de poteau. Donc, si la charpente avait été posée, elle se serait écroulée. On s'est dit, il faudrait peut-être faire intervenir un expert en bâtiment qui pourrait nous en dire plus. Et l'expert, quand il est arrivé, c'est pareil, il nous a dit, tout est à démolir, rien ne va, même l'espacement des ouvertures de portes, de fenêtres. Et donc il ordonne sa démolition. La démolition se fait. Entre-temps, on annule notre permis de construire pour refaire un autre projet de maison plus simple. Notre expert, que nous avons engagé aussi en tant qu'assistant maître d'ouvrage, pour assister notre premier maître d'œuvre dans les travaux, que ce soit bien fait. L'arrête en fait dès le terrassement de la deuxième maison du coup. Il l'arrête et lui dit stop, vous ne savez pas travailler, vous êtes incompétent, vaut mieux arrêter là, vous ne saurez jamais faire cette maison. Donc notre maître d'œuvre avoue qu'il ne sait pas faire, qu'il a pris un projet trop gros pour lui. En fait, c'est un simple maçon, c'est pas un constructeur de maison, c'est un petit bricoleur. Nous, c'est panique à bord. On se dit, bah, s'il peut pas nous rembourser avec son argent, il peut pas nous rembourser non plus par des travaux. Comment on fait pour récupérer cet argent? Parce que là, du coup, mis bout à bout, il nous devait 55 000 euros. L'expert, lui, nous dit, ah, mais vous inquiétez pas, on va la faire ensemble, cette maison. Je vais vous la faire. Ne vous inquiétez pas, on va la faire. En plus, il se dit expert judiciaire, assermenté au tribunal, représentant de la loi, on peut que lui faire confiance. Ça fait déjà un an qu'il nous suit. Sauf que cet expert nous a sorti une offre et il nous a dit de signer 2 jours après. On n'avait pas le choix, il fallait signer 2 jours après pour qu'il puisse. Donc c'était un jeudi, je m'en rappelle, un jeudi soir. Il fallait qu'on signe absolument le samedi matin pour que les travaux commencent le lundi suivant. Et bah, pour nous, ça nous paraissait. Enfin, depuis 2 ans, les travaux n'avançaient pas, et là, en 3 jours, ça pouvait démarrer. Il insiste, et il a réussi à nous faire signer son fameux contrat, et en plus, nous faire signer 3 chèques d'acompte. En sortant de son bureau, avec Fabrice, on se regarde, et on savait qu'on avait fait une bêtise, en fait. Le lundi suivant, on voit pas d'engin sur le chantier, personne sur le chantier, en fin de journée, toujours personne. Donc, je rappelle l'expert, je lui dis, bah, vous foutez un peu de nous, il n'y a personne sur le chantier. Ah si, si, ça va commencer demain. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu déposer les engins, mais vous inquiétez pas, ça va commencer mardi. J'appelle quand même la banque en lui demandant de faire opposition sur l'échec. Et la banque me refuse. Elle me dit que non, on n'a pas le droit aux yeux de la loi, il faut faire opposition sur des chèques seulement volés ou perdus. Donc, bon, aucun moyen de se retourner. On avait quand même signé un premier chèque de 4 000 euros, un autre de 20 000 et un troisième de 15 000, ce qui est beaucoup. Et j'insiste, je rappelle l'expert, je lui dis surtout, vous encaissez pas l'argent, pour l'instant, on n'a toujours pas les fonds sur notre compte. Sauf que le mardi midi, je m'aperçois qu'il a encaissé les chèques. 2 chèques sur 3. Donc le chèque de 4 000 et le chèque de 20 000. Et là, je commence à péter les plombs. Donc, on prend contact avec un avocat. Un avocat lui fait un courrier de notre part pour se rétracter sur ce document qu'on a signé avec lui et qu'on puisse récupérer notre argent. Et depuis, on a eu une seule réponse où il s'oppose à la rétractation et au remboursement d'argent. On a commencé en janvier 2017. Aujourd'hui, on n'a toujours rien. Un terrain nu et on a moins 80 000 euros.
Okay. ce qu'elle oublie de dire, Gilles, c'est que le dernier événement en date, quand même, c'est que mardi, on a reçu un appel de la gendarmerie pour me convoquer, moi et Gilles, être auditionnés, parce qu'on a réussi à faire opposition à un chèque en, voilà, en inventant un mensonge, mais c'était nous dans ce sentiment d'urgence. Voilà, des fois, on fait des choses qui sont un peu hors la loi. Et ce cher monsieur l'expert nous a quand même porté plainte contre nous pour escroquerie, parce qu'il n'a pas réussi à encaisser son chèque. Donc au mois de novembre, ça fera 3 ans qu'on a contracté le prêt. On devra rembourser 750 euros en plus de notre loyer actuel. Donc on vit un petit peu la peur aux ventes chaque jour. La peur d'aller ouvrir une boîte à lettres pour recevoir un courrier, je sais pas, moi, pour me dire que je dois encore je sais pas combien d'argent à je sais pas qui, d'être convoqué je sais pas où. Les gestes de la vie quotidienne sont un petit peu angoissants.
On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir psychologiquement par la suite, même si un jour ça s'éclaircit, toute cette histoire? Parce que le mal est là, le mal a été fait, et maintenant, une fois qu'on aura... on aura gagné, j'espère, il faudra s'en remettre.
You holler at me. Don't you call me fat, you know I'm built for comfort. I ain't built for speed.
C'était Attention Travaux, un reportage de Noémie Landreau réalisé par Yael Mandelbaum. Merci à Madame Wolf, Madame Galfo et à tous les habitants du 6 rue de l'Industrie à Vincennes. Merci également à Mélissa Foust, l'attachée de production des Pieds sur Terre.
I don't believe in calling names. I love everybody, you know, I believe that the whole thing is the same. I'm built for comfort, I ain't built for speed. I got everything you sweet mama need. Well, sweet mama, she don't jive around, you know, she don't...